Au Café Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Transformer la vie des communautés est une approche souvent utilisée lors des urgences humanitaires. Et dans le cadre du fonds d'urgence humanitaire, le fonds CERF, l'UNFPA, travaille en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales pour mener à bien les opérations d'aide et d'assistance aux personnes les plus vulnérables. C'est le cas de la collaboration avec l'ONG COPI dans la province de l'Ituri. En quoi consiste ce partenariat? Quelles sont les personnes cibles lorsqu'on parle de transformer la vie des communautés? Qu'est-ce qu'on entend par personnes plus vulnérables? Eh bien, les réponses à toutes ces questions, c'est dans cette émission avec Madame Christina Contini, Grant Manager à l'ONG COPI. Et nous avons également dans ce studio Monsieur Biaï Martin, coordonnateur du programme CERF 2019 pour le compte de l'UNFPA. Monsieur Biaï, en passant, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi? On parle de plus en plus du fonds CERF. C'est quoi le fonds CERF?
Monsieur Kachama, Julie Daniel, merci. Dans votre présentation, vous avez effleuré quelque chose de plus important. Le fonds CERF, pour votre information, c'est Central Emergency Response Fund. Mm. C'est un fonds d'urgence disponibilisé par OCHA, c'est la coordination des affaires humanitaires en RDC, pour pouvoir donner des réponses aux questions qui se posent, questions d'urgence qui se posent au sein des communautés dans la République démocratique du Congo. En ce qui nous concerne, UNFPA, ensemble avec ce partenaire, bénéficie de ce fonds pour la mise en œuvre du programme CERF dans les zones en conflit de la République démocratique du Congo. Et ces zones en conflit sont identifiées dans les 6 provinces que je vous citerai au cours de cette émission. Donc, il faut noter que le fonds CERF, c'est un fonds d'urgence disponibilisé par OCHA et mis à la disposition des UNFPA avec l'ensemble de ce partenaire d'intervention sur terrain pour pouvoir donner des réponses immédiates aux situations de populations en crise humanitaire.
Voilà. Alors, nous avons également dans ces studios Madame Christina Contini, Grant Manager à l'ONG COPI, qui travaille en collaboration avec vous. Madame Christina, pouvez-vous nous dire quelle est la nature de la collaboration que vous avez avec l'UNFPA dans le cadre de ce fonds CERF?
C'est un projet que vient de commencer. Ça sera un projet de 6 mois. Qui cherche à faciliter l'accès aux droits sexuels et reproductifs des femmes et filles dans les communautés affectées par les conflits en Ituri, notamment dans la zone de santé de Fataki et de Linga. C'est un projet qui cible environ 800 bénéficiaires entre les femmes enceintes et les sujets les plus vulnérables. Ça se concentre sur la santé reproductive, la planification familiale et la violence sexuelle. Les projets, et ça c'est une procédure auquel COPI garde chaque intervention, s'intègre aux formations sanitaires existantes en respectant donc synergie territoriale essentielle pour créer un impact durable. Les activités qui sont mises en place sont plusieurs et se concentrent surtout sur la formation des prestataires de santé, les relais communautaires et les animateurs de la communauté. Cherche de appuyer et supporter le centre de santé et les deux hôpitaux généraux impliqués en médicaments et en kit d'assistance et de support aux femmes et filles les plus vulnérables. Cherche aussi de faciliter au moins le soutien à la prise en charge psychosociale des survivants de violences sexuelle est basée sur leur genre. Oui. Le challenge, ça sera, comme toujours pour copie dans les interventions de protection, le référencement pour la prise en charge juridique des survivants pour celles qui souhaitent avoir une réparation juridique aux violences.
Voilà. Donc, je reviens à vous, Monsieur Martin Biaï. Ce fonds d'urgence humanitaire, vous dites que vous travaillez dans 6 domaines. Vous avez 6 domaines d'intervention.
Dans 6 provinces.
6 provinces.
Exactement.
Alors, quels sont les domaines d'intervention? Déjà, j'ai entendu Madame Christina parler de la santé,
de la reproduction,
le planning familial, la violence sexuelle est basée, celle basée sur le genre.
Exactement. Je crois qu'elle a balayé pratiquement tous les secteurs d'intervention. Pour ne pas me répéter, c'est bien sûr la santé de la reproduction, la planification familiale, les violences basées sur les genres.
Ça, c'est les domaines prioritaires.
Prioritaires. Et donc, pour compléter, Madame Christina, elle a parlé d'une manière lapidaire des activités principales qui sont mises en œuvre par COPI en tant que partenaire dans la province de l'Ituri. Mais je voudrais que vous ayez une idée plus ou moins globale de la grande zone d'intervention du projet CERF. Je vous ai parlé des 6 provinces. Et donc, d'ailleurs, dans l'Ituri, nous avons COPI comme partenaire d'intervention, nous avons aussi la Caritas Bounia. Vous avez la province du Nord Kivu, où nous intervenons avec ce projet, avec le partenaire d'intervention sur terrain qui met en œuvre les activités, c'est notamment les organisations Il Africa et Hop in Action. Nous avons les mêmes interventions dans la province du Sud Kivu, avec le partenaire Médecins d'Afrique, MDA, et le partenaire SARCAF. Les mêmes activités, nous les mettons en œuvre dans la grande province du Tanganyika avec le partenaire TPO et ADRA. Et quand vous allez dans le Grand Kasaï, je voudrais parler du Kasaï central et Kasaï, nous avons le partenaire comme Caritas Kananga, AIFID et Magna. Voilà un peu d'une manière générale, vous avez une idée sur l'ensemble des 11 partenaires qui sont engagés avec nous dans un partenariat efficace, dans un partenariat centré sur les populations, parce que pour votre information, nous, UNFPA, dans toutes les actions que nous menons, c'est la population qui est au centre de tout. Et donc, les interventions de l'UNFPA sont basées sur la réponse aux besoins ressentis des communautés, préalablement identifiées ou observées, et nous mettons en place des programmes pour venir en aide à ces populations-là.
Martin Biaï, quand on parle de transformer la vie des communautés, qu'est-ce que cela veut dire en langage humanitaire?
Très bien. Et donc, nous d'abord à l'UNFPA, vous devez noter que tout ce que nous faisons, c'est pour la transformation. Raison pour laquelle, dans les cadres de la mise en œuvre de notre programme humanitaire, nous parlons de résultats transformateurs. Et pour arriver à ces résultats transformateurs, nous cherchons à mettre en œuvre des activités qui transforment des vies des communautés, qui transforment des vies de paisibles citoyens qui sont dans difficulté. Et donc, pour répondre précisément à votre question,
dans le langage humanitaire.
Dans le langage humanitaire, transformer la vie des communautés, c'est apporter des changements substantiels à la vie des communautés, ou mieux, aux populations y vivant. Je voulais bien dire et souligner ça, apporter de changements substantiels.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Et les changements substantiels, c'est justement de réponse aux préoccupations des communautés. Il y a des besoins qui ont été identifiés, par exemple dans le domaine de la santé et de la reproduction. On peut dire, on se rend compte que au jour d'aujourd'hui, il y a eu 2 cas de décès maternels dans certaines parties de ce pays à cause de l'absence d'un personnel qualifié. Ça, c'est un problème. Il y a eu beaucoup de décès de nouveau-nés à la naissance à cause de l'absence d'un personnel qualifié. Et donc, ça, c'est un problème identifié. Et UNFPA, dans ses interventions, apporte un personnel qualifié, renforce les capacités de personnel de santé pour le mettre au diapason, qui lui permette justement d'éviter ces décès-là. De sorte qu'un des résultats transformateurs très importants, 0 décès maternel évitable, soit atteint. Et donc, vous comprenez que du point de vue pratique, quand on parle de transformer des vies des communautés, on veut réellement voir les changements substantiels qui s'opèrent dans la vie au quotidien de citoyens dans la zone d'intervention du projet. Mmh. Et j'estime que avec ça, ça vous met un peu à l'aise. Et vous pouvez comprendre aussi oui. qu'apporter un changement pour nous, c'est... apporter une transformation au mode de vie de manière à permettre à chacun, avec ses capacités, de contribuer tant soit peu au développement de ce pays. Et donc ça, c'est quelque chose à noter dans le langage humanitaire par rapport à transformer la vie
des communautés. On va accueillir deux auditeurs qui sont déjà en ligne, et puis je reviens à vous tout à l'heure. Jonas Kavinda nous appelle des Kananga, Jules Mwamba et Talumbashi. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 04 81 890 63 94.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Kapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble.
Que faut-il entendre par transformer la vie des communautés dans les langages humanitaires? On en parle aujourd'hui avec M. Martin Biaï, coordonnateur du programme CERF 2019 pour le compte de l'UNFPA. Nous avons également dans ce studio Mme Christina Contini, Grant Manager, chargée des contrats, l'ONG Kopi. Jonas, vous êtes à Kananga, Jules Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. On commence avec vous, Jonas. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, je vous dis Daniel Kachava. Bonjour aux invités, bonjour également... aux membres de l'Université Radio Kapi.
Bonjour.
Ma préoccupation est la suivante, monsieur Jody. J'ai suivi religieusement l'invité, l'invité homme, pas madame, l'invité homme, qui a parlé de l'intervention, des transformations de vie de communauté au Kasaï central. Il a dit qu'ici, ils sont en partenariat avec Caritas et puis. Et Magna. Oui, un jour j'ai vu le véhicule Magna, le véhicule Mat Prado, je crois, oui. Bon, les interventions de travaux ici au Kasaï central, bon, ils sont précisément dans quel territoire? Parce que, même à Tarango où je suis, les personnes vulnérables sont disparues. Est-ce qu'ils peuvent vraiment spécifier la vulnérabilité, c'est ils interviennent à quel niveau? Et puis, ici au Kasaï central, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apporter comme aide ou comme don qui puisse transformer la vie des personnes vulnérables? Dès lors que nous constatons qu'il y en a encore qui sont nombreux, ce n'est pas un secret pour personne, notamment que Kasaï central venait de sortir de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables qui continuent à souffrir. Et l'invité dit qu'ils sont en train d'intervenir avec des dons, ça et là-bas. Ils interviennent précisément avec quel type de dons? Et puis, est-ce qu'ils pensent que ce qu'ils apportent comme dons là, ça garantit la vie de ces personnes vulnérables là pendant quelle période, je dirais oui, ça garantit la vie pour cette période, pour quelle échéance?
D'accord, mais...
Pour finir, monsieur Jody, sinon, est-ce qu'ils pensent que les agents qui sont par exemple pour Magna, est-ce qu'ils ont tous les moyens possibles pour accéder dans tous les lieux où il y a des personnes vulnérables? Parce qu'il paraîtrait qu'ils se poseraient un problème, notamment des moyens de déplacement, et ils sont en train de se déplacer sur la ville de Kana.
Merci. Jules Mwamba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama, c'est Jules Modeste Mwamba, Dio Katanga, Lubumbashi.
Quelle est votre question? Quelle est votre question par rapport au thème du jour?
Oui, le sujet paraît très pertinent à mon égard. Par rapport à ce que le premier invité a dit, moi j'ai quelques questions à lui soumettre. La première est la suivante. Concernant les urgences, parce que nous sommes dans un pays qui est toujours perpétuellement en conflit. Vous savez, les cas d'urgence ne sont pas seulement dans les six provinces qu'ils veulent décider. si on peut remarquer bien, c'est toute l'étendue de la République, mais je voudrais poser mes questions de la manière suivante. La première, c'est que l'invité nous dise d'où viennent les fonds avec lesquels ils aident les gens qui sont vulnérables, ou les fonds avec lesquels ils aident les zones à conflit ou les zones de gens qui sont vulnérables. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que l'invité puisse nous dire aussi comment ils s'y prennent, parce que nous constatons que il y a quand même une certaine hiérarchisation des choses lorsqu'ils arrivent dans un milieu où les gens sont vulnérables. Ils sont frappés par une certaine calamité, ils doivent passer par leur chef. Et on constate souvent qu'avec les Congolais, lorsqu'ils remettent des fois certains dons ou certains produits comme ça, les chefs sont toujours voués à certains détournements de biens qui sont destinés aux populations vulnérables. Comment ils se prennent pratiquement pour résoudre des cas comme ça? Troisième question, je voudrais peut-être savoir, parce qu'il a parlé d'un personnel qualifié dans ce domaine-là avec lequel il travaille. Comment est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont dans le domaine du volontariat. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Parce que nécessairement, même si on est doté d'une certaine volonté du monde, comme si on était Dieu, on ne peut pas toutefois faire du volontariat jusqu'à la fin. On doit quand même être motivé pour bien...
D'accord, merci. Merci, Jules Mwamba. D'accord, on a noté vos préoccupations. Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour. Et quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Bonjour à la radio Kapi et à mes invités. Monsieur Jody, je voulais un peu demander aux invités par rapport au sujet du jour. Les domaines d'intervention, ils sont bien soulignés, mais les provinces sur 26, ils interviennent seulement dans 6 provinces. N'est-ce pas là une insuffisance d'intervention par rapport à toutes les populations de la RDC à telle enseigne que le besoin se fait sentir sur l'étendue du territoire national? Alors comment ils entrevoient l'avenir par rapport aux provinces qui ne sont pas concernées pour les projets à ce moment ici? Deuxièmement, je ne sais pas, dans les provinces où ils interviennent, ils passent par quelle organisation nationale? Parce que j'ai vu ici, par exemple, à Kananga, dans la commune de Langanza, certaines femmes ont été retenues dans la maternité. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas payé les frais de maternité. Et pour cela, ça a créé un peu de petits problèmes, de petits soucis. Imaginez-vous, quand vous vous accouchez, vous n'avez pas l'argent maintenant pour payer la sortie de la maternité, ça pose un problème. Troisièmement aussi, c'est pour chuter, il y a beaucoup d'enfants vulnérables, beaucoup de personnes vulnérables ici. Je ne sais pas si le Kasaï central n'est pas considéré par rapport à ce projet-là, mais comment nous pouvons aussi faire pour que le Kasaï soit pris en considération, surtout dans les territoires, les villages, les secteurs touchés par les hostilités du Kamunasa. Merci beaucoup.
Merci à Kachai de Kanyoka. Madame Christina, vous avez la parole.
Oui, merci. Donc, je commence avec la première intervention pour ce qui concerne le Kasaï central. Donc, et après, je laisse Martin répondre pour ce qui concerne l'intervention directe UNFPA avec des autres organisations non gouvernementales, parce que nous, on est copie, donc je ne peux pas répondre pour des autres. Bon. Les Kasaï centrales, c'est une zone très affectée par la crise, bien évidemment, et nous, on cherche, en tant que copie, d'intervenir grâce aux fonds de bailleurs mis à disposition. On est là en service de la communauté dans plusieurs domaines, donc notamment dans l'éducation, dans la nutrition, avec un très grande intervention financée par UNICEF, et deux projets d'intervention multisectorielle qui touchent la protection financée par les fonds humanitaires. C'est toujours évident que les besoins ne sont pas entièrement couverts. C'est un pays où la crise est très volatile. les besoins
sont énormes.
Et changent constamment. Donc, nous, on fait parfois pas un train à cibler le bénéficiaire qu'on veut adresser, qu'on découvre que, par exemple, la taille de ménage n'est pas à 6, mais à 27. Donc, ce que je veux répondre à la personne très gentille qui est intervenue, c'est de communiquer avec des organisations présentes sur le terrain et faire sentir votre voix à travers le représentant de la communauté ou bien à travers une intervention directe afin qu'un plaidoyer peut partir du terrain jusqu'aux agences des Nations Unies qui planifient l'intervention directe. Mmh. Et ça, c'est pour ce qui concerne le Kasaï central. Pour ce qui concerne en général les détournements qui arrivent en passant par les chefs ou bien pour les représentants de la communauté, bon, ça change de territoire en territoire. C'est pas la première fois que cette plan arrive chez COPI. Je crois que c'est un thème de discussion très sensible. On peut penser à une autre intervention, un programme entier sur ça. Les détournements font partie de l'action humanitaire, malheureusement. Et pour éviter que ça arrive et que ça va impacter négativement l'intervention générale, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, il faut que nous enregistre votre préoccupation. Il faut que la communauté dénonce ce qui
se passe en des cas de détournement.
Oui, on est ensemble, comme vous disiez au Congo.
Il n'y a pas de souci. Ok, Monsieur Martin Biaye.
D'accord, merci. Je vais prendre rapidement les différentes interventions des auditeurs que je remercie très particulièrement. Pour l'attention, on sent que nous sommes suivis à travers le pays grâce à la magnanimité de la radio Okapi, nous en sommes très reconnaissants. Et donc le premier intervenant de Kananga, M. Jonas, voulait savoir où nous intervenons exactement et qu'est-ce que nous donnons pour faciliter ces interventions. Et donc dans le Grand Kasaï, aussi bien pour le Kasaï que pour le Kasaï central, M. Jonas de Kananga peut déjà noter que nous intervenons dans au moins 6 zones de santé. Kamonia, Kanzala, Lukonga, Ndesha, Chikaji et Katoka, dans ces 6 zones de santé. Mmh. Et il se retrouve quand je suis en train de parler. Et dans les 6 zones de santé où on intervient directement avec les projets CERF, environ 22 formations sanitaires, que nous appelons le centre de santé, ont été sélectionnées et bénéficient directement des fonds CERF pour pouvoir mettre en œuvre des activités balayant les 3 secteurs d'intervention que nous avons cités, notamment la santé de la reproduction,
le planning familial.
Exactement.
Violences sexuelles et violences basées sur les genres.
Merci beaucoup, Jody. De plus en plus, je comprends que vous devenez aussi spécialiste en la matière, tant mieux. Et donc, ça fait partie de notre mission aussi. Oui. Et donc, parmi les 22, si Jonas de Kananga peut avoir une idée plus ou moins apaisée, il peut comprendre que parmi les 22, il y a le centre de santé de Sumbula, de Kabungu, de Bomberger, Kamako Eta, Lumuka, Phoenix. Il y a Notre-Dame, je parle comme ça, oui. Pour qu'ils se retrouvent. Il y a le centre des centrés Moussangilaï, Kambote, Kanyuka, Luandanda, Christ-Roi, Kamilabi, il y a le centre de santé Kamupongo, il y a le centre de santé Moussangila, il y a le centre de santé Saint-Martyr, Saint-Bernard, Kalemba Mulumba, Tshisenga, Saint-Georges et Katoka. J'ai cité environ une vingtaine comme ça. Mm. C'est pour juste lui donner une idée que la zone d'intervention est bien cadrée. Et donc, par rapport à la question de garantie qu'il a posée, quelle est la garantie que nous donnons de ces interventions? Oui. Effectivement, nous sommes dans un projet d'urgence. Quand une réponse est donnée, c'est une réponse pour donner à la préoccupation ou besoin ressenti immédiatement par les communautés. Et nous sommes dans un projet d'urgence très limité dans un court terme. Et voilà, les réponses que nous donnons permettent à la population de se stabiliser pour se lancer dans une vision à long terme un peu plus tard. Pour prendre les interventions de notre collègue Jules Mwamba de Lubumbashi, je crois, si je ne me trompe pas, il a parlé des urgences en RDC qui sont énormes et que...
D'où viennent les fonds?
Voilà. Ben écoutez, nous l'avons dit en début de cette émission, les fonds que nous utilisons pour mettre en œuvre les projets CERF viennent de OCHA, la coordination humanitaire en RDC. Et donc ces fonds tombent entre les mains d'un grand partenaire qui est UNFPA, reconnu pour ses meilleures interventions avec deux effets et impact durable sur les communautés.
Et l'UNFPA, à son tour, travaille avec les organisations.
Avec les organisations internationales ONG, et nationales.
Et nationales.
Exactement.
D'accord.
Et voilà. Et il a parlé des ONG internationales, mais il y a aussi des ONG nationales. Je vous ai parlé de Sarkaf dans les Sud-Kivu. Mm-hmm. C'est une ONG nationale qui travaille avec nous directement sur les questions de prévention et lutte contre les violences basées sur les genres. Et il y en a toute une légion comme ça. Et donc, il a parlé de personnel qualifié. Et dans l'introduction, j'ai effleuré les cas en démontrant qu'il y a souvent des décès quand il n'y a pas un personnel qualifié à l'accouchement. Mmh. UNFPA, dans le cadre de ce projet SERF, a recruté et renforcé les capacités de sages-femmes qui sont affectées dans les différentes provinces, s'il vous plaît, sans exception. Il y en a environ 18 maintenant, 16 sages-femmes, qui travaillent directement dans les formations sanitaires qui ont été affectées. Mmh. Pourquoi elles travaillent là-bas, ces sages-femmes? C'est justement pour arriver à réduire sensiblement les nombres de décès maternels.
C'est
pour
arriver
infantile, exactement, merci Jody. Mmh. C'est pour arriver justement à atteindre un de nos résultats transformateurs que l'on vise, zéro cas de décès maternel évitable.
Quelqu'un a parlé tout à l'heure des femmes qui ont accouché mais qui sont retenues à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas de moyens. Mmh. Elles ne savent pas payer pour être libérées. Madame Christina, au niveau de Fatah, là où vous intervenez, il y a aussi des cas pareils.
Oui, bien sûr. Ça, c'est une problématique qui touche tous les pays. Donc, il n'y a pas la possibilité pour les centres de santé, mais même pour les hôpitaux, de faire face aux coûts qui ne sont pas gérables par la communauté. Mmh. Et du coup, ils sont obligés à emprisonner les patients jusqu'au moment qu'ils seront à mesure
de payer
leurs soins. C'est dramatique, mais c'est la réalité congolaise. Mmh. Pour ce qui concerne l'intervention en fait sur les personnels médicaux qualifiés ou bien pas qualifiés, et le mécanisme de volontariat, si j'ai bien compris, et ça c'est plutôt lié au fait que les personnels sanitaires sont ils ne sont pas payés régulièrement et du coup ils sont complètement démotivés à arriver à l'hôpital ou bien au centre de santé pour travailler. Donc l'intervention humanitaire dans ce sens, ce qu'on cherche à faire avec COPI, c'est un plaidoyer au sein du ministère de la Santé, puisque il peut comprendre que la motivation du personnel, c'est essentiel pour permettre une durabilité après la fin du projet et l'intervention humanitaire.
Mmh. Et aussi, pour compléter, Madame Christina, il y a des subventions qui sont prévues, et ces subventions permettent justement de répondre à ce type de questions dans les formations sanitaires où ça se pose. Dans les projets SERF, cela est prévu.
Quelqu'un a dit tout à l'heure, sur 26 provinces en République démocratique du Congo, le projet SERF couvre seulement 6 provinces. Il dit, vous ne trouvez pas que c'est pas encore important jusque-là?
Exactement. Il faut bien comprendre la motivation centrale du financement de ce projet. Mmh. Nous avons dit, ce sont des interventions dans des zones en conflit. Et j'estime que Monsieur Kachai, je crois que c'est de lui qu'il est question, de Kanyoka, est d'accord avec moi que ce n'est pas toute la RDC qui est en conflit. Alors, même si toute la RDC était en conflit, le ciblage a été fait d'abord sur les 6 provinces où le problème s'est posé avec beaucoup plus d'acuité sur base de critères bien établis. Effectivement, quand vous regardez très bien actuellement, quand vous prenez une province comme l'Ituri est vraiment exposée au conflit.
Avec tout ce qui se passe
avec la crise
de
Djougou, exactement, Djougou, et le territoire de Mahagi aussi. Mm-hmm. Et donc, tout ça, il fallait intervenir dans ces provinces. Quand vous prenez la province du Nord Kivu, voyez-vous, avec tout ce qui se passe sur quand vous prenez l'axe, la route nationale numéro 2 qui part de Kavumu vers Sake, quand vous prenez l'axe qui traverse le parc national en passant par en passant par les localités de
de Tiomia, partout là-bas jusqu'à Kaina, c'est une zone qui est vraiment en insécurité. Et vous comprenez qu'en sélectionnant cette province, on a centré d'abord l'attention sur des provinces qui sont réellement en conflit et où les femmes et les filles ont de sérieux problèmes d'accès aux problèmes de la santé, de la reproduction, des planifications familiales et des violences basées sur les genres.
D'accord, on va accueillir trois autres auditeurs qui sont en ligne. Que faut-il comprendre par transformer la vie des communautés dans les langages humanitaires? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94.
Radio Okapi. À Kamina. Okapi. Sur 104.3 FM.
Okapi. Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi, Glody, Abandonouville et Jean, vous nous appelez des Ouattara. Pierrot Pagna, bonjour.
Bonjour Glody, bonjour à l'invité et bonjour au milieu de l'auditeur qui nous suit à ce net moment.
Quelle est votre question, Pierrot?
Je ne suis pas long, je me reposais quelques questions seulement. Nous savons que ce programme qui a des partenaires, il nous a dit qu'il y a, ils sont en train de travailler dans 6 provinces. Or, nous avons d'autres provinces qui ne sont pas en conflit, mais qui sont presque oubliées par l'État, telles que la province de Mami dans la ville de Kabinda, où la malnutrition est là. Nous avons trouvé ça et nous avons peut-être laissé ça. Alors, je trouve qu'il y a de réfugiés qui quittent d'autres pays et qui entrent dans les provinces pauvres. Alors, dans les 6 provinces qu'il a citées, pourquoi si le siège de le CERF est à Kinshasa? Pourquoi mettre ça à Kinshasa pendant que nous avons l'Ituri, nous avons l'est du pays qui est dans l'insécurité et où il y a le conflit jour le jour? Alors, c'est la première question que je voulais demander de savoir. Quel est le but de CERF? Est-ce que parce qu'il est venu pour essayer de trouver les solutions dans le conflit en RDC? Alors, le conflit, je vois que c'est comme la prière de notre Père des catholiques où nous avons fait à la naissance et nous allons laisser ça. Alors, tant que ce conflit est en train de se voir, est-ce que CERF continuera toujours à travailler ou il y aura d'autres projets? Ça, c'est une première question. La deuxième question pour terminer. Alors, en cas de malnutrition, nous avons des enfants qui manquent de l'éducation parce que les pères n'ont pas de moyens pour les scolariser. Ces enfants-là, qu'ils prévoient faire pour ce cas particulier?
Merci Pierrot de Lubumbashi. Glody, vous êtes à Bandonouville, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes, bonjour à nos invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question par rapport au sujet du jour? Transformer la vie des communautés?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, car c'est la tienne. Dans la ville de Bandundu, nous traversons quand même des problèmes qui sont sérieux. Parfois, il y a des quartiers dans la ville de Bandundu ont des difficultés pour avoir de l'eau potable. Alors, on ne sait pas par rapport à ces problèmes, mais je voulais quand même poser des questions à nos invités qui sont là au studio. En République démocratique du Congo, nous avons des problèmes vraiment très sérieux. Et ils travaillent seulement parmi les 26 provinces et ils travaillent à 6 provinces. Qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement pour les contacter? Parce que nous avons quand même des difficultés. Et d'après moi, ce que je voulais souhaiter, ils peuvent mettre quand même un numéro où dans des provinces qui ont des difficultés, ils peuvent contacter. Parce que la radio Capi, je sais que la radio Capi est propagée sur toute l'étendue de notre pays. Parfois, on peut les contacter. Mais ici, vraiment, nous avons quand même des problèmes sérieux. Et la seconde question, qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement pour avoir ces financements? Ça, c'est d'abord les questions de base. Parce que de parler, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement pour avoir ces financements? Parce
Merci.
Que dans la ville de Bandundu, pas moyen de parler, nous avons des difficultés.
Merci. En fait, merci, Glody de Bandundu-Ville. On va accueillir Jean de Ouattara. Bonjour. Jean, vous êtes à Ouattara, bonjour. Il n'est plus là. Il va certainement nous rappeler. Madame Christina, continue. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Oui, alors merci Pierrot. Il y a beaucoup de provinces en RDC qui sont oubliées, on est tout à fait d'accord. Lomami, j'étais là-bas en mission il y a quelques mois et effectivement, ils souffrent de besoins pas pris en compte par les bailleurs. Ou bien
il y a parlé de la malnutrition.
Exactement. Nous, on est là, on est dans la zone de santé des Camigi et je crois que vous connaissez, on travaille dans la malnutrition sévère pour les enfants de moins de 5 ans. Et du coup, je vous suggère de nous contacter privatement si vous avez des informations à nous donner sur des autres zones qui ne sont pas touchées, mais qui ont le même besoin. On va vous supporter dans une action de plaidoyer, comme on cherche à faire toujours avec toutes les communautés qu'on touche. Pour ce qui concerne la problématique liée aux réfugiés, oui bien, j'ai visité malheureusement un champ très très grand de réfugiés d'Angola et un foyer de maladies et d'insécurité que, bien sûr, j'ai reporté aux bailleurs de fonds. Donc on espère, on attend la suite et on vous tiendrait bien sûr au courant.
Alors, Madame Christine, en passant à Ituri, là où vous intervenez, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à transformer la vie des communautés en Ituri grâce à ces fonds en serve?
Non. C'est la transformation de vie de communautés, c'est quelque chose que ça prend beaucoup de temps. Et le financement CERF sont particuliers parce qu'il répond à une urgence d'une façon très vite. C'est pour ça que le projet a une durée de 6 mois. Ce qu'on peut dire sûrement, c'est que tout ce qu'on fait ensemble et qu'on cherche à mettre en place, c'est un mécanisme de sensibilisation et renforcement des capacités qui puisse apporter un changement de comportement et donc à une autonomisation de la communauté. Et c'est ça pour COPI et pour UNFPA dans ses partenariats, la clé du développement. Donc, pour parler des transformations, je crois qu'on a encore un peu, on a besoin encore un peu du temps.
Oui.
Mais ça, c'est le chemin, bien sûr.
D'accord. Monsieur Martin Biaille.
D'accord, merci. D'abord, juste un petit correctif par rapport à ce que Madame Christina vient de dire. Le projet SERF a commencé depuis avril, et donc c'est 9 mois. Mais toujours est-il que le partenaire COPI particulièrement a eu 6 mois pour la mise en œuvre.
D'accord.
Mais la durée, c'est 9 mois et ça se termine au 31 décembre 2019. Et donc, par rapport à la grande préoccupation de la zone d'intervention du projet, je voudrais, à votre attention et à l'attention de tous les auditeurs qui nous suivent, qu'ils notent que l'UNFPA, qui est une agence des Nations Unies pour la population, intervient sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et particulièrement, je l'ai souligné dans l'introduction, les projets CERF n'a centré que sur les 6 provinces.
Mais l'UNFPA intervient sur l'ensemble
exactement,
des provinces du pays.
Exactement, exactement. Mm. Et donc, pour enchaîner avec la préoccupation de l'auditeur qui voudrait savoir pourquoi ils ne sont pas basés à l'Est, effectivement, l'UNFPA est basé sur terrain. À Goma, nous avons un bureau de représentation qui fonctionne à temps plein et qui travaille directement avec le partenaire COPI et Caritas Bounia. Vous allez à Goma, nous avons un bureau décentralisé, un très grand bureau qui est basé à Goma et qui travaille avec l'ensemble de partenaires, non seulement du CERF, mais des autres projets qui sont en cours d'être mis en œuvre, le projet JADE d'autonomisation, d'encadrement des jeunes et bien d'autres. Donc ça, c'est une précision importante à noter pour notre auditeur. Pierrot, qui a parlé de la malnutrition dans la province de Lomami, merci, c'est une information. Vous comprenez très bien que cette
émission... C'est que Lomami est une province oubliée.
Voilà, c'est une province oubliée, ça vaut bien la peine de le souligner, mais c'est une information notée. Et donc c'est une émission qui nous permet aussi d'avoir, n'est-ce pas, le besoin des communautés.
Est-ce qu'on peut dire que la malnutrition infantile fait aussi partie des urgences couvert par ce fonds, le fonds CERF?
Ah ben justement, la malnutrition c'est pas exclu, parce que quand nous intervenons, c'est des interventions tout à fait globales. Et quand les populations sont en conflit, quand les populations vulnérables sont dans le besoin, c'est justement sur l'ensemble des questions, dont la malnutrition et les autres questions de la santé de la reproduction. Et donc, je ne voudrais pas perdre les vues pour rentrer sur notre ami de Glodis, quoi, de Bandundu,
qui a parlé de l'absence de l'eau potable.
Ils n'ont pas d'eau potable là-bas. Il dit que c'est, ça fait partie aussi des urgences humanitaires.
Ben voilà, ça fait partie des urgences humanitaires. C'est un très bon son des cloches. Mais dans le cadre de ce projet, la ville de Bandundu n'a pas été ciblée. Mais nous avons noté très bien que c'est un besoin là-bas. Mmh. Et donc, en ce qui concerne la question de transformer réellement de vie, Christina l'a dit, la transformation de vie des communautés.
Ce n'est pas du jour au lendemain.
C'est un processus. Mais je suis heureux de vous annoncer, Monsieur Djoudi et chers auditeurs, mais déjà les effets sont visibles et perceptibles. Parce que vous savez, si on peut se relancer très bien quand vous êtes dans votre cadre ou bien schéma de résultats, vous savez que vous avez tout de suite, quand vous mettez en œuvre les activités, vous avez un produit. Tout de suite, quand vous continuez à mettre les activités en œuvre sur base de produits plus les autres activités, vous avez un effet. Tout de suite, quand vous continuez à mettre en œuvre les activités, les effets peuvent certes se transformer en impact. Et là, nous sommes dans les longs termes. Mais cependant, pour revenir à mon propos, je voudrais vous rassurer que nous sommes très heureux de constater que les effets sur les populations affectées sont de plus en plus manifestes. Quand vous constatez déjà la diminution du nombre de décès maternels, quand vous constatez la croissance du nombre de nouveaux-nés qui reçoivent des services essentiels à la naissance, ça, ce sont des effets. Mmh. Quand vous constatez maintenant, M. Djoudi,
le personnel qualifié.
Le personnel qualifié qui est renforcé en capacité, qui est déployé sur terrain, et cela, quels que soient les conflits et l'insécurité. Et donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'effets qui sont déjà à saluer. Et bientôt, nous sommes dans les processus de distribution de kits pour la santé de la reproduction, des kits de dignité. Et ça va encore avoir beaucoup d'effets et beaucoup de changements sur la vie de bénéficiaires. Mmh. Et je vous informe que ces kits dont je parle, il y en a au moins 12 catégories, kit 1 à kit 12. Ces kits sont déjà déployés dans plusieurs provinces et maintenant nous sommes dans le processus de leur distribution aux consommateurs finaux, qui sont les populations affectées ou les bénéficiaires qui ont été loyalement identifiés dans le cadre de ce projet. Voilà.
D'accord. On va accueillir Jean de Ouattara. Bonjour Jean. Jean, vous êtes à Ouattara, bonjour. Il n'est plus là. Johnson est en ligne depuis Kisangani, bonjour.
Bonjour, bonjour mon frère, bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la transformation de la vie des communautés?
Oui, je suis très content des projets des ONG que vous avez sur le plateau là, mais il faut se dire que mon frère et tous les auditeurs qui nous écoutent à ce moment-ci, qu'aucun pays du monde ne s'est développé avec les ONG. Donc c'est bien ce qu'il faut, mais aucun pays du monde ne se développe avec les ONG. Je profite de cette occasion pour appeler toutes les autorités du pays que les renforcements des capacités des infirmiers, la prise en charge des personnes vulnérables, ce sont les missions allouées à l'État. Je vous dis, mon frère, que ces ONG-là, les choses qu'ils sont en train de faire dans les 6 provinces dont ils ont cité, il faut leur poser la question, ça sera pour combien de temps? Parce qu'on ne dira pas, quand ils vont partir, on ne demandera pas aux hommes de cesser d'avoir des enfants, et les mêmes problèmes vont se reposer quand ils vont partir. On n'aura pas, ils n'auront pas à dire qu'après leur départ, les gens n'auront plus le dossier de planification familiale. Donc c'est pour vous dire que les ONG, merci avec ce qu'ils font, mais ce n'est pas ça qui peut développer le pays. C'est l'État qui est en charge de tout ça. Et donc c'est ça.
Merci. Merci Johnson depuis Kisangani. Madame Christina, vous avez la parole.
Oui, bonjour Johnson, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aucun pays ça va développer avec seulement l'appui des ONG. Ça soulève, bien sûr, mais c'est pas ça le développement durable qu'on cherche. La prise en charge des personnes vulnérables, donc de besoins et des crises humanitaires, c'est d'abord une responsabilité de l'État et il faut le répéter. Donc merci beaucoup. La question qu'on se pose toujours dans la quotidiennité de notre boulot, n'importe où, c'est qu'est-ce qui passera après notre intervention sur place. C'est une question très, très intelligente et nous, on se demande chaque intervention ce qu'on fait a un impact qui sera à mesure d'être captabilisé par la communauté ou bien la communauté sera en attendant d'une prochaine intervention qui va venir. C'est un peu, comme j'ai répondu déjà, un travail en commune. Donc, les ONG interviennent sur place en supportant les communautés en difficulté et les communautés doivent réceptionner l'intervention et chercher de la faire propre afin que les besoins soient résolus d'une façon synergique et commune. Les efforts au sein du gouvernement doit partir de la communauté même et pas seulement d'un plaidoyer des Nations Unies ou bien des ONG. C'est une réaction qui doit partir du fond.
D'accord. Monsieur Martin Biaille.
Merci beaucoup, Johnson de Kisangani en province de la Tchopo. Et donc, je voudrais juste attirer son attention que les organisations internationales et nationales qui œuvrent en RDC le font avec l'autorisation du gouvernement congolais. Ce qu'il faut tout de suite comprendre est que toutes les organisations internationales sont en partenariat avec l'État congolais. En l'occurrence, UNFPA, mon organisation, a un partenariat franc avec le gouvernement congolais, ce qui permet, n'est-ce pas, de continuer à mettre en œuvre les activités comme il se doit. Mmh. Et donc, par rapport à ce partenariat-là, l'UNFPA renforce non seulement les capacités de bénéficiaires des populations affectées, mais le service public de l'État. Quand nous travaillons directement avec les districts sanitaires, quand nous travaillons directement avec les zones de santé, et quand nous faisons des formations, par exemple, en DMU ou en SONI, les DMU, pour votre information, ce sont les dispositifs minimums d'urgence. Quand nous faisons des formations en SONU, ce sont les soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Et ces formations se font avec tous les travailleurs des services publics de l'État de notre zone d'intervention. Cela veut dire que les capacités que nous renforçons, quand bien même étant dans un projet d'urgence, vont continuer à être bénéfiques pour l'État congolais avec ses services publics, même au-delà du projet CERF. C'est ça qui s'appelle partenariat. C'est ça qui s'appelle complémentarité. Le gouvernement congolais, avec le mandat qui lui revient, avec la responsabilité, fait sa part et il fait appel aux organisations non gouvernementales
qui viennent en appui au gouvernement.
Qui viennent exactement en appui.
Mais pour cela, c'est vrai qu'il a constaté que le gouvernement ne joue pas son rôle comme il se doit. On a l'impression que ce sont les ONG aujourd'hui qui ont pris les devants.
Ben écoutez, c'est un débat dans lequel il faut éviter de plonger la tête tout de suite là, parce que ce n'est pas objet de notre émission. Alors, mais il faut juste dire que par rapport au type de projet, il y a des projets d'urgence qui sont limités dans les temps, justement, mais il y a aussi des projets durables. Et donc, par exemple, je vais vous donner une illustration. L'UNFPA est fortement engagée avec le gouvernement congolais dans le projet ProRoute. C'est un projet de réhabilitation des routes hautement prioritaires dans une bonne partie de ce pays. C'est un projet qui est déjà à sa 10e année et qui tend vers la fin. UNFPA est engagé avec le gouvernement congolais dans ce projet, notamment pour la mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre le VIH-SIDA, lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres, sécurité routière sur l'ensemble des axes routiers dans les différentes provinces qui ont été identifiées. Et là, c'est dans les durables.
D'accord. Revenons d'abord à transformer la vie des communautés. Vous avez dit que c'est apporter des changements substantiels.
Tout à fait.
Et ce n'est pas tout de suite, c'est un travail de longue haleine.
Il y a de ça faire.
Et ça prend du temps. Oui. Alors, revenons à Mme Christine. Parlez-nous, vous êtes l'ONG COPI, travaille en collaboration avec l'UNFPA en Ituri dans le cadre de la santé, de la reproduction, violences sexuelles et celles basées sur les genres. Parlez-nous, par exemple, des projets qui sont en train d'être implémentés actuellement par rapport aux femmes et aux jeunes filles de l'Ituri.
Oui. Donc, nous, on travaille dans la protection en Ituri depuis 2007. Et on vient de commencer cette collaboration très précieuse avec UNFPA. On est déjà sur place avec un projet multisectoriel financé par les fonds humanitaires. Et on commence, on vient de commencer une petite intervention financée par un autre fonds de CERF via UNICEF sur la protection de l'enfant. Donc, la situation complexe en Ituri nous oblige à intervenir dans chaque intervention en place, toujours dans deux côtés. Donc, dans la prévention contre les abus de violation des droits humains, avec un accent porté particulier aux violences sexuelles et du coup à la sensibilisation de la communauté, et une réponse opérationnelle aux survivants de violences sexuelles, soit pour les adultes et soit pour les enfants, qui notamment sont les enfants non accompagnés ou bien les enfants sortis de la milice et du coup traumatisés. Il faut tenir en compte que dans la région de l'Ituri, dans nos bénéficiaires, les 20% des assaillants sont des enfants. En plus, il y a l'instabilité sécuritaire et la crise qui affecte les populations causée par les conflits intercommunautaires qui causent un déplacement massif et continu et qui augmente l'insécurité des sujets les plus vulnérables. Pour COPI, ça devient toujours plus compliqué, mettre en place une intervention complète, intégrale et holistique qui peut prendre en compte toutes les étapes à suivre dans une intervention de protection. Donc, c'est pas seulement la prise en charge d'un cas de violence, mais c'est son accompagnement jusqu'à la réintégration dans la communauté, soit au niveau socio-économique, soit au niveau scolaire, soit au niveau psychologique.
D'accord. Merci. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Monsieur Biaye, Martin, on a annoncé dans cette émission que, dernièrement, on avait annoncé un concours. Des questions ont été posées aux auditeurs et ceux qui vont bien répondre sur la page Facebook de l'UNFI auront des cadeaux. Alors, vous donnez les résultats aujourd'hui ou comment ça se présente?
Sur la même page, en fait, comme vous l'avez dit, vous l'avez annoncé avant.
Oui.
Et donc, ça sera fait. Et aujourd'hui, on va ajouter encore d'autres questions.
Ah, d'autres questions, mais quand est-ce que les résultats seront publiés?
Sur la page Facebook, et nous comptons travailler à la journée du 19 août.
D'accord.
C'est une journée de l'aide humanitaire.
C'est à cette occasion-là qu'on va... Alors, quelles sont les questions que vous ajoutez aujourd'hui rapidement?
Les questions que j'ajoute aujourd'hui, c'est peut-être la première question. Oui. Si les auditeurs peuvent aller sur notre page Facebook et répondre à la question... Quels sont les avantages de l'utilisation des méthodes de la contraception moderne? Ça, c'est la première. La deuxième, parmi les activités organisées par UNFPA que les auditeurs ont suivies depuis que nous faisons ces émissions, quelles sont pour eux les activités qui transforment directement les vies des communautés?
Okay.
Ils peuvent répondre à ces deux questions.
À ces deux questions-là,
on s'est dit. Et le 19, on va donner...
On va donner les résultats et les cadeaux. Merci.
Merci.
Merci, monsieur Martin Biaye, et merci à madame Christina Contini de l'ONG COPI. Monsieur Martin Biaye est de l'UNFIA. Il est le coordonnateur du programme CERF.